Merci d'être avec nous. On est bien en osmose et on va se balader dans Avignon. Après Paris, il y a quelques minutes, c'est pas mal Avignon. Nous allons aller jusqu'au grenier à sel où l'on retrouve Véronique Bâton, la directrice. Bonjour Véronique.
Et bonjour.
Comment allez-vous?
Mais divinement, je dirais.
Super, parce que vous êtes en osmose. Là, c'est
voilà, exactement, en osmose.
Alors on va parler de la mécanique du trait.
Oui, qui est une exposition.
Qui a démarré il y a quelques
jours. Le 1er avril, c'était pas un poisson, et qui connaît un certain succès depuis, donc on est ravis.
Bah, faut dire qu'elle est hyper intéressante.
Oui.
Quelle est la mécanique de cette exposition, justement?
Eh bien, justement, on part à la recherche presque de la petite mécanique du trait, c'est-à-dire ce dessin qui est un dessin primordial, qui est le dessin de la main qu'on fait tous, qu'on pratique tous, qui nous renvoie à notre enfance. Hein, quand on remplissait des cahiers de dessin et qu'on coloriait ensuite. Voilà, l'idée c'est d'interroger un petit peu ce dessin aujourd'hui, comment il se reconfigure, il se recompose chez les artistes contemporains, quels sont les périmètres de ce dessin, quelles sont les technologies auxquelles les artistes font appel, quels sont les nouveaux protocoles de dessin à l'ère du numérique. C'est vraiment ça qu'on interroge.
C'est très vaste.
C'est immensément vaste.
Parce qu'il n'y a pas que des traits, il y a quand même des vrais dessins. Enfin,
Oui, il n'y a pas que les technologies justement, la main reste... D'ailleurs le titre c'est... La mécanique du trait quand la main s'efface. Mais on s'aperçoit que la main ne s'efface pas vraiment, au fond. Elle reste toujours présente, la main de l'artiste.
Elle s'efface quand l'artiste atteint un certain niveau où il dessine naturellement.
Alors ça peut être ça, ouais. Comme Picasso, qui dessine de façon absolument remarquable.
Impressionnant.
On le voit dans le film de Clouseau, d'ailleurs. Mais en fait, elle ne s'efface pas vraiment. Elle est relayée parfois, elle est accompagnée parfois par des technologies comme l'ordinateur, comme l'informatique, comme des machines à tracer, comme Tinguely en a inventé. On voit dans l'exposition, on ne voit pas la machine, on voit un film qui montre Tinguely en train d'expérimenter sa machine à dessiner dans les années 50.
D'accord. Vous faites appel à des monstres sacrés.
On a
parlé de Picasso, donc on a un film.
Il y a un film,
alors Clouseau.
C'est des extraits du film de Clouseau, magnifique film qui avait été projeté à Utopia il y a quelques années déjà, qui s'appelle Le Mystère Picasso, et que Clouseau a réalisé en 1955, qu'il a présenté à Cannes en 1956, et il a eu d'ailleurs un prix au Festival de Cannes.
Il y a Claude Renoir derrière aussi,
oui.
C'est quand même pas n'importe quoi. Quand on voit ces noms-là, on se dit, mon Dieu.
Mais oui. Voilà, la rencontre de Picasso et de Clouseau est assez exceptionnelle, parce qu'ils avaient envie de travailler depuis de nombreuses années, et Picasso un jour appelle Clouseau en lui disant, mais tu sais, il y a peut-être un moyen d'interroger un peu mon travail à travers le film. Il y a un technicien américain qui m'a envoyé des feutres tout à fait remarquables. Alors, ça nous semble une technologie hyper classique aujourd'hui, mais à l'époque c'était génial. C'est des feutres qui sont capables, enfin c'est une sorte de pinceau feutre qui est capable de transpercer la toile. C'est-à-dire qu'on peut voir le dessin de l'autre côté.
D'accord.
D'un certain nombre d'une toile ou d'une certaine épaisseur de papier. Et Clouseau s'est dit, voilà, c'est l'idée que je cherchais pour pouvoir peindre ou représenter le dessin de Picasso sans voir Picasso lui-même, en voyant juste le dessin se tracer sur un papier. Donc il va passer sa caméra derrière la toile et il va filmer.
On voit
Picasso qui enclenche ses dessins et on suit le processus de création, on suit toute la, comment dire, la mécanique en fait, du trait chez Picasso.
C'est le but du jeu.
Ouais, exactement.
Sur la photo qu'on voit de Picasso, on voit justement Picasso avec... c'est de la lumière,
Alors, c'est pas de la lumière, rayons, c'est que là. C'est éclairé par ce que vous avez aussi dans le studio, vous. Mmh. C'est des lumières spéciales pour filmer. Et on le voit tracer. Et après, la caméra, elle ne montre plus Picasso. Elle ne montre que le dessin à l'envers.
On dirait du light painting.
Et on dirait du light painting, comme ça. C'est vrai que c'est un film extrêmement beau. Il faut se souvenir de Clouseau dans des films plus populaires, peut-être, comme le Corbeau ou d'autres, qui sont très contrastés, qui ont des noirs et blancs très contrastés. Ce film est à cette qualité du noir et de la lumière particulière.
Il y a des jours de projection pour ces films ou
non, le film de Clouseau, on voit des extraits sur un écran.
Alors l'exposition, elle est conçue comme une déambulation, on se balade.
Oui, on se balade à travers le trait, justement. On part de Picasso, on part du geste de la main, en fait, c'est ça. Et on passe dans une autre dimension, dans la seconde salle, où on voit comment des artistes ont relayé leurs dessins par la machine, des jeunes et des moins jeunes. Je vous parlais de Tinguely tout à l'heure, qui avait créé une machine à dessiner. Mais il y a également Vera Molnar, qui est une grande artiste de l'abstraction picturale ou dessinée, dans la lignée vraiment du Bauhaus, des constructivistes, donc de l'art moderne, et qui a dessiné, elle, en ayant recours à l'ordinateur. Et puis après, on voit les jeunes artistes, ce qu'ils font par rapport à ça.
C'est ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, on appelle des monstres sacrés, hein, qui sont partis depuis longtemps.
Oui.
Et puis, il y a aussi des gens actuels. Il y a même un Avignonnais, j'ai vu.
Oui, très très jeune, hein, Bastien Faudon.
C'est intéressant, d'ailleurs.
C'est très très intéressant ce qu'il fait, ça plaît beaucoup, toute génération confondue vraiment. C'est un dessin à partir, lui, de l'informatique. Hein. Il dessine à la main levée et il dessine aussi avec l'ordinateur.
Oui, à la main levée.
Et il mélange ça, en fait, si je puis dire de façon assez raccourcie, il mélange ça dans des vidéos. Il fait pas que ça, il y a également des dessins sur plexiglas.
C'est assez spatial quand même. Hein.
C'est très spatial.
Ouais. Ça rappelle la théorie d'Einstein sur le... l'univers, la fois que
exactement.
Il se replie et tout.
Alors, ce que vous avez ressenti est tout à fait juste parce qu'en fait, il s'inspire beaucoup de peut-être moins de théoriciens physiques, mais plus de diagrammes peut-être et de schémas scientifiques.
C'est ça.
Et on le sent beaucoup quand on regarde ces dessins qui sont des dessins minimalistes, mais extrêmement beaux.
Et ça parle.
Et ça parle.
Sans une parole. C'est ce qui est intéressant. La mécanique discursive, ça a l'air très beau cette photo.
Alors. Mécanique discursive, c'est une grande installation monumentale dans une des grandes salles du grenier à sel, dans une des grandes sections qui conservait le sel autrefois, et qui est une rencontre entre un graveur et un vidéaste. Et ensemble, ils ont créé cette œuvre majeure, je trouve.
C'est grand.
C'est très grand. Ça
prend une pièce
c'est
carrément.
Une pièce entière pratiquement, les murs sur toute leur hauteur pratiquement. Et on voit, ce sont des gravures qui sont accrochées au mur, des gravures à l'ancienne, mais avec toute une iconographie très contemporaine et très ancienne en même temps, en fait.
Il y a du bois, il y a un
il y a du bois, il y a ces noirs très puissants, très profonds, comme on en parlait pour Clouzot. Et puis, il y a de la vidéo qui est projetée dessus et qui crée un mouvement entre les différentes gravures.
Ça a l'air impressionnant.
C'est une sorte d'histoire à lire.
C'est intéressant parce que c'est très moderne. Et en même temps, les images ont l'air des années 50, des années 30.
Oui, oui.
C'est une espèce de mix comme ça et ça fait ultra moderne, en fait.
Oui, en effet, c'est vraiment une remise au goût du jour de la culture populaire des années 50-60. C'est quelqu'un qui s'est vraiment inspiré de toute cette culture, de la BD, ce qu'on appelait la sous-culture autrefois, qui est une culture remarquable et qui nourrit forcément le centre.
Oui. Alors, il y a un truc que certains vont aimer retrouver, c'est le télécran.
Oui,
le télécran, oui,
petite pointe de nostalgie. Alors après, moi j'ai posé la question aux jeunes de 20 ans et je me suis dit, mais peut-être qu'ils n'identifient pas bien ça. Et c'est resté dans l'imaginaire collectif parce que le télécran, on le trouve encore sur eBay ou enfin, je ne vais pas faire de la publicité pour les maisons de vente.
Peu importe.
En tout cas, on le trouve, ce sont des objets encore très collectionnés et qui marchent. Et nous, on en a acheté quelques-uns et on les met à disposition du public pour qu'ils s'amusent.
Oui, mais là, c'est Stéphane Lallemand et c'est pas n'importe
là,
quoi.
Là, c'est un artiste, un grand artiste.
Les dessins qu'on voit, c'est vraiment fait au télécran.
Oui, il a repris les chefs-d'œuvre de la peinture.
À
connotation un peu licencieuse, érotique, il y a les bouchers, les fragonards, et
les
baigneuses de Cézanne aussi. Et ça a pari vraiment, il en a fait 150, nous on n'en présente que 6, et il a décidé de les reproduire en fait au trait sur le téléécran avec ce jouet des années 60 qui est quand même très agréable, mais un peu improbable aussi dans le maniement, très compliqué.
Enfin, pour ceux qui ont essayé, moi j'en avais pas dans le téléécran, mais
vous avez deux curseurs.
Quoi, sur les marchés aux puces ou quoi,
voilà. Ça paraît... Vous avez un curseur horizontal et un curseur vertical et vous vous débrouillez après pour faire
là,
les obliques.
Il fait des courbes et tout, enfin, c'est vraiment
pour faire les courbes.
Un maître du télécran, Stéphane Lallemand, que l'on retrouve donc au grenier à sel. Moi, personnellement, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a des choses qui ressortent. Bon, on a parlé de Picasso, on parle du télécran. D'autres choses qui vous ont marqué, vous, personnellement
Ah, moi, il y a une installation en réalité virtuelle que j'aime beaucoup, qui est vraiment un des clous de l'exposition, qui d'ailleurs clôture le parcours, qui est de Christophe Monchalin, un artiste belge. Il y a la Belgique est assez présente dans cette expo.
Il est très technique, lui, hein, ou ingénieur plutôt.
Alors, lui, il est ingénieur à l'origine, mais tous ceux qui travaillent sur la réalité virtuelle ou avec la réalité virtuelle, en général, ont une forte formation en ingénierie, en technique, dans ces technologies-là, ou alors ils font appel à des ingénieurs. Et lui, il a réalisé une histoire qui est tout à fait touchante, tout au trait. C'est vraiment... On est immergé, on coiffe un casque, hein, la réalité virtuelle, c'est ça. On coiffe un casque et on rentre dans une image qui se déroule devant nous, en fait, une histoire. On est dans le dessin animé, si je puis dire. Même si ce n'est pas un dessin animé, c'est un dessin au trait. Et on est à l'intérieur. On peut se pencher, tourner, le trait nous accompagne. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui remonte dans le fil de ses souvenirs pour retrouver son enfance.
C'est une exposition un peu interactive, mais aussi très immersive.
Très
immersive. On est plongé dedans, en fait.
On est plongé dedans, on est stimulé par... un certain nombre de comment dire, de nombre assez grand, important d'approches picturales, et on entre aussi dans le dessin. On peut aussi actionner de la réalité augmentée. Vous avez une œuvre d'Adrien Éclair, on prend une tablette, vous avez devant vous un livre qui est ouvert avec un pop-up, vous savez, c'est ces ouvrages en relief, et avec la tablette, on peut animer ces pop-up. Il y a toute une histoire qui s'écrit, qui se déroule, qui émerge en fait de ce petit théâtre en papier.
C'est passionnant.
Il y a plein de choses.
Ah oui, c'est passionnant.
Le dessin contemporain est très riche.
On n'imaginait pas, quand on voit la mécanique du trait, on pensait plutôt à des machines, justement, à dessiner ou des choses comme ça.
Le spirographe.
Oui, voilà, ce genre de choses. Puis quand on rentre dans l'expo, on est quand même assez fasciné.
Oui, il y a beaucoup de choses.
On est absorbé. On est étonné.
On est concerné. Ouais. Il y a des histoires qui nous parlent. Je veux dire, ce n'est pas juste formel. Il y a des narrations, il y a des histoires qui s'écrivent, il y a l'histoire du petit trait, par exemple, de Serge Bloch, qui est un classique que beaucoup connaissent à travers le livre qu'il a écrit pour les jeunes générations. Mais il y a le film où un petit garçon trouve un petit trait, et ce petit trait, il va construire sa ville, mais dans sa poche, c'est en fait un petit bout de trait rouge, et il va le ressortir de sa poche un jour, et il va construire un peu sa vie, toutes les choses dont il a besoin, jusqu'à la maturité et au-delà.
D'accord. Ça me rappelle un peu l'histoire de la Linéa, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Mais la Linéa est présente aussi.
Oui, voilà.
On a une petite bouffée de nostalgie, la Linéa des télécrans.
Avec ce personnage qui parle, on ne comprend pas ce qu'il dit, mais on sait que c'est de l'italien en moyenne.
Voilà, on sait qu'il n'est pas content aussi très souvent, à part quand il est content. Et on voit la main qui dessine le petit personnage.
Ah oui, c'est vrai. Puis des fois, il y a de l'interaction entre la main et le personnage. Eh ben écoutez, ça nous touche beaucoup cette expo. C'est jusqu'au 25 juin.
Oui, jusqu'au 25 juin, tous les après-midi du mercredi au samedi, de 13h30 à 18h30.
Au Grenier à Sèvres.
Au Grenier à Sèvres,
à Avignon. Merci Véronique.
Merci infiniment.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.